19h-20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Chers amis auditeurs et auditrices, bonsoir, ça on démarre la semaine avec vous, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti au sommaire de cette émission, nous sommes ensemble pour commenter, analyser et décrypter l'actualité jusqu'à 20h et vous êtes de plus en plus nombreux et vous savez quoi, je vous en remercie. Je félicite aussi la venue d'un tout nouveau journaliste parmi nous, c'est monsieur Azzedine Chaouch qui était chez Kim ce matin, il sera là tous les lundis. À 8h précise, pendant 20 minutes, il va vous faire régaler entre interviews politiques, mais également aussi commentaires sur l'actualité. Je souhaite évidemment un grand welcome à Azzedine, qui est évidemment notre confrère, donc que vous retrouvez tous les lundis matins à 8h chez Kim. Donc, à noter ce rendez-vous. C'est parti au sommaire de cette émission. Nous allons parler, vous savez quoi, de trois sujets. En ce moment même, le Sénat est en train d'examiner le projet de loi d'immigration et ça tape fort puisque Gérard Damanin lui demande au sénateur, vous savez quoi, tout simplement de construire un texte ferme, juste et efficace. Est-ce que nos débatteurs influenceurs pensent la même chose? Nous reviendrons sur Éric Dupond-Moretti. Ce procès est une infamie. Clochette ou pas clochette? Oui, clochette. Alors, la question qu'on posera, évidemment, est-ce que... Alors, il a toute la confiance de la Première Ministre, mais la question se pose. Pourra-t-il, évidemment, toujours incarner l'habit du ministre de la Justice? Autre sujet, le conflit israélo-palestinien. On en parle, justement, avec l'aide humanitaire qui se presse de plus en plus avec le secrétaire général qui demande un cessez-le-feu au plus vite, un cessez-le-feu humanitaire et qui réclame aussitôt d'urgence... évidemment cela, pour que une paix soit possible et puis surtout que l'aide humanitaire se fasse dans les plus brefs délais. On en parlera, y compris, vous savez quoi, avec cette tribune, une vie palestinienne vaut une vie française qui vaut une vie israélienne. Ça, c'est la tribune de Nadia et qu'on reçoit, c'est notre invité ce soir, juste après, évidemment, ce sommaire. Et puis vous au 01 53 48 3000. Vous venez, vous commentez l'actualité au 01 53 48 3000. 19h50, Maître Franck Serfati viendra nous livrer son regard et son billet d'humeur sur l'actualité du moment. Allez, c'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant, mais vous le savez, plus que jamais, en toute liberté d'expression.
Les informés. Les informés. L'interview.
L'interview, c'est avec Madame Nadia. Bonjour Nadia.
Bonsoir Adil Farkan.
Bonsoir, on vous entend un peu au loin. Si vous aviez la possibilité de vous coller sur votre portable, ce serait évidemment top. Madame la députée, vous représentez Renaissance, vous êtes députée des Yvelines. Vous avez écrit et rédigé une tribune par vous-même et 60 députés de Renaissance. Vous êtes nombreux d'ailleurs, hein, une tribune qui a fait beaucoup parler d'elle. La France, par l'action déterminée du président Macron, doit montrer au monde qu'elle ne peut pas être de ceux qui pratiquent le deux poids deux mesures entre Israël et la population civile de Gaza, souligne 61 députés de la majorité. Comment est née cette tribune, Madame la députée Nadia Hay?
Eh bien, après la sidération qui nous a tous frappés le 7 octobre, des actes monstrueux, des actes de terreur qui ont frappé la population israélienne, est arrivée la réponse israélienne. Et là, on a vu...
Je ne sais pas si vous avez la possibilité, pardonnez-moi, Madame la députée, si vous avez la possibilité peut-être d'arranger que le son soit un peu audible, meilleur à l'antenne, puisque je vous avoue qu'on a quelques problèmes à vous capter en direct, si vous voulez bien.
Alors, je vais tenter quelque chose.
C'est en direct.
C'est facile à distance, parce que vous m'entendez mieux, là.
Ah bah c'est mieux. Là, on prend plaisir à vous écouter. Allons-y.
Très bien. Eh bien donc, je vous disais que après l'horreur qui a frappé le 7 octobre et la population civile israélienne, ces actes d'horreur, de terreur du groupe Hamas, on a vu qui a suscité évidemment une condamnation ferme et totale face à ces attaques. Et nous avons vu par la suite une réponse qui a été apportée par l'armée israélienne sur la population civile de Gaza. Et on a vu des vies tomber les unes après les autres et un discours qui s'accompagne
de certains dits experts analystes, de certains aussi pays qui ne n'ont pas aussi un regard bienveillant, humaniste sur les populations civiles de Gaza. Le président de la République fait un déplacement au Proche-Orient, le premier chef d'État à s'être rendu à la fois en Israël et dans les pays arabes, pour essayer de non seulement pouvoir obtenir cette trêve humanitaire, mais aussi pousser le sujet politique et aboutir à des discussions qui mettront fin à ce conflit qui dure maintenant plus de plusieurs décennies, à savoir la création des deux États. Et on s'est aperçu que finalement cette parole du président de la République n'était pas relayée et qu'on laissait place finalement à plusieurs supputations, des commentaires et des remarques, et qui pour certains étaient pris comme étant la position de la France. Et je pense que c'était important non seulement d'avoir un cri d'alerte, d'alarme sur ce qui se passe à Gaza.
Alors justement, comment vous expliquez que dans l'opinion, hein, le journal qu'on connaît, votre tribune a provoqué débat? Pour quelle raison? Parce que vous dites une vie palestinienne vaut une vie française qui vaut une vie israélienne. Vous savez, je vous avoue que vous mettez les pieds dans le plat, justement. Vous allez aussi parfois à contresens de certains qui sont, y compris chez vous, au sein de votre mouvement Renaissance. Pour quelle raison vous aviez voulu provoquer ce débat? Pourquoi vous avez emprunté ce chemin?
Moi, je pense qu'il faut faire aussi très attention au débat dans lequel on se trouve. Il y a certaines personnes aujourd'hui qui sont prises sous le coup de l'émotion parce qu'il y a une histoire personnelle que je peux entendre. Mais nous sommes des responsables politiques. Et les responsables politiques, c'est que dans ce brouillard de mots, de feux aussi, de ce qui se passe là-bas au Proche-Orient, de ces bombes, de ces coups de feu qui sont lancés, eh bien, il faut que nous ayons une boussole. Et notre boussole, c'est qu'a toujours été, enfin, ça a toujours été celle de notre majorité présidentielle, notre groupe Renaissance, eh bien, c'est l'humanisme et le droit. Et là, en l'occurrence, le droit international qui doit s'appliquer. Et donc, il était important que des voix s'élèvent au sein de notre majorité pour rappeler ces principes fondamentaux que constitue aussi des valeurs de notre parti politique. Et donc, il était important de faire entendre cette voix qui n'est autre, je le rappelle et je l'affirme avec beaucoup de force, qui n'est autre que la position du président de la République dans ce conflit. Et j'estime, je constate que sa voix n'est pas suffisamment relayée, n'est pas suffisamment portée aussi par les médias français, par les responsables aussi politiques que nous sommes, à savoir l'affirmation du droit international humanitaire, des droits humains, et également la position de la France dans ce conflit, c'est-à-dire la création de deux États qui vivent en sécurité, en paix, l'un à côté de l'autre.
Merci de nous rappeler. Donc vous nous rappelez, Madame la députée, Madame Nadia Hay, que le président de la République, Emmanuel Macron, soutient évidemment cet enjeu qui consiste donc deux États, une paix. Aujourd'hui, il y a urgence. Trop, c'est trop, déclare des agences humanitaires de l'ONU. Des cessez-le-feu humanitaires sont essentiels pour répondre aux immenses besoins à Gaza. C'est l'ONU, c'est le secrétaire général. Vous dites quoi, vous, la voix de ces 61 députés, vous-même, madame la députée, puisque vous faites référence au président de la République? Comment vous voyez les choses là, de façon urgente, là, dans les prochains jours?
D'abord, c'est
tout le monde s'inquiète.
C'est de continuer à faire ce que l'on fait, c'est-à-dire des appels fermes et forts pour obtenir cette trêve humanitaire. Et le président de la République a décidé de réunir le jeudi 9 novembre de cette semaine des pays pour essayer d'obtenir cette trêve humanitaire qui devra à un moment donné conduire à un cessez-le-feu. Et donc, c'est tout le travail diplomatique dans lequel s'est lancé le président de la République, mais c'est également aussi la voix des parlementaires, le faire en France pour réaffirmer évidemment notre soutien aux populations israéliennes parce qu'elles ont vécu l'horreur et la terreur, et notre soutien aux Palestiniens qu'il ne faut surtout pas confondre avec les actes de terreur commis par le Hamas, et surtout obtenir cette libération, cette liberté, à savoir la création d'un État palestinien. Et également, ça a été dit par le président de la République, l'arrêt des colonisations en Cisjordanie. Donc il y a des éléments qu'il va falloir traiter d'un point de vue politique et diplomatique. Et puis, il y a aussi cette diplomatie parlementaire qu'il nous faut aussi occuper. Aujourd'hui, pour tout vous dire, je suis en Grèce, je suis à Athènes, dans une réunion qui réunit les pays membres de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, et je peux vous dire que la question israélo-palestinienne est au cœur de nos échanges. Alors que ce n'était pas prévu à l'ordre du jour il y a quelques mois, on était sur la sécurité en Europe, l'Ukraine, le sujet ukrainien, et s'est invité la question israélo-palestinienne, où les parlementaires français poussent la voix de la France également à l'échelle européenne. Donc je pense que c'est important aujourd'hui de rappeler les principes français en termes de politique étrangère, et notamment le regard qu'ils portent et la position qu'elles portent sur le conflit israélo-palestinien, et jouer toute la carte de tout ce qui naît, enfin tout ce qui est en notre possession et pouvoir, pour essayer d'obtenir très vite cette trêve humanitaire, Madame, et protéger les populations civiles, Madame, palestiniennes.
Madame,
aujourd'hui,
Madame,
c'est notre priorité et notre boussole dans, Madame, le brouillard que l'on connaît aujourd'hui.
Madame la députée, dernière question, Madame Nadia, dites-moi, Madame la députée, clairement aujourd'hui, vous savez, tous celles et ceux qui vivent ce conflit israélo-palestine s'inquiètent aussi que cela soit importé dans nos quartiers populaires. Beaucoup sont inquiets, beaucoup évidemment se posent des questions. Qu'est-ce que vous leur dites, vous, députée des Yvelines et représentante de Renaissance, vous leur dites quoi à toutes celles et ceux qui aujourd'hui passent, défilent à l'antenne et font part de leur inquiétude?
Mais en fait, vous savez, je suis assez loin de votre studio, mais je mesure le sentiment de colère et d'indignation que ce conflit provoque. Et il est provoqué des deux côtés, ceux qui ont une position pro-palestinienne et ceux qui ont une position pro-israélienne. Moi, je pense qu'il faut vraiment garder le sang froid et essayer de résoudre ce conflit. Et donc, ça passe par une voie diplomatique qui est certes beaucoup moins rapide que ce qu'on souhaiterait, mais il nous faut passer par là. Et s'il y a des appels à lancer dans les quartiers, dans toutes celles et ceux qui soutiennent une sortie de paix à ce conflit, eh bien c'est de le faire dans le calme, de le faire dans le respect de notre droit national, du droit également international, oui, mais du droit national, pour pouvoir porter ces causes. Moi, j'entends que la colère qui s'exprime, l'indignation par certains qui n'est pas dans le cadre de notre droit. Et ça, ce n'est pas non plus tolérable. Donc, on peut avoir des positions, évidemment, de défense pour la cause, mais il nous faut le faire dans le droit national. Et donc,
merci.
Parce que la France est un État de droit. Donc, j'entends cette colère. Évidemment, nous sommes... moi, je suis tout aussi indignée de voir ces vies perdues d'enfants, de femmes enceintes, de bébés, de jeunes qui tombent les uns après les autres. Et c'est parce que cette situation n'est plus tolérable que j'ai lancé cette initiative de la tribune et j'ai été suivie par grand nombre de mes collègues. Et je peux vous dire qu'on a été pris par les délais de signature de la tribune qui a été imposé par le journal, mais on aurait largement pu obtenir beaucoup plus de signatures. Donc c'est vous dire qu'à quel point c'est, oui, partagé par les députés Renaissance, et qui n'est autre que la voix du président de la République sur ce
merci
conflit.
Merci infiniment. Merci Nadia, députée des Yvelines. Merci d'avoir été avec nous en direct, donc depuis la Grèce, si j'ai bien compris. Merci à vous et bon courage, oui, hein, pour évidemment les enjeux diplomatiques qui vous attendent.
À très bientôt. Merci beaucoup.
À très bientôt et j'invite tous les auditeurs.
Au revoir à tous nos auditeurs et à très bientôt.
À très bientôt. Merci infiniment. J'invite tous nos auditeurs à découvrir donc la tribune. La tribune, donc une vie palestinienne vaut une vie française qui vaut une vie israélienne. La tribune de Nadia et 60 députés Renaissance. Monsieur, juste un mot, on fait un tour de table rapidement, hein. Évidemment, je vous demande pas de commenter ce qu'elle dit, mais je vous demande de commenter ce qui se passe sur le conflit israélo-palestine. D'une phrase. La situation est préoccupante. Bah, Emmanuel Dupuis, bonsoir.
Bonsoir, Adil Fakan. Bonsoir à Madame la députée et bonsoir aux auditeurs. Je partage son point de vue. Hein. De toute façon, la position française est, de ce point de vue, remarquable. Nous avons été le premier pays, en 1974, à reconnaître l'OLP. Nous avons été les premiers à faire en sorte que l'OLP ait son siège de membre observateur, l'Organisation de Libération de la Palestine, le Fatah, issu donc du processus, du long processus de maturation, puisqu'ils ont utilisé le terrorisme pour ensuite abandonner l'idée de la destruction d'Israël, pour que la position française appelle à la solution à deux États. On en est plus loin. Oh, pardon, on en est très loin. Je ne crois pas que la position de ce mantra d'une solution à deux États puisse encore fonctionner. Premièrement, parce que ni les Palestiniens d'aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir et vous savez en quoi Cisjordanie, vous avez ni les Israéliens ça. Ne le veulent.
Vous avez développé ça. Je vais juste accueillir nos deux autres débatteurs influenceurs. Jimmy Dalidou, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Nabil Etagage, bonsoir.
Bonsoir Adil.
On se retrouve juste après la pause et ne manquez pas évidemment les commentaires, les analyses et le Sénat qui est en train d'examiner en ce moment même la loi immigration. Et puis vous aussi au 01 53 48 3000. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. 19h-20h. Les informés présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Et les informés, c'est aussi avec Emmanuel Dupuis, le président de l'IPSE. Bonsoir.
Bonsoir.
Le représentant de la CGT, mais également auteur, Jimmy Dalidou. Bonsoir.
Rebonsoir à tous.
Le représentant de Renaissance sur le département du 93 qui fait parler de lui en ce moment, c'est Nabil Etakache. Bonsoir.
Bonsoir.
Ça vous fait sourire. Pourquoi ?
Non.
Ah, voilà.
Vous me faites sourire.
Allez, tout de suite, les auditeurs ont la parole.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
01 53 48 3000, chers amis auditeurs, vous êtes les bienvenus. Et partout en France, je vous écoute et j'accueille le 69. Ça doit être Lyon, ça, non ? Aurilla, bonjour Aurilla.
Bonjour, messieurs.
Ça fait longtemps, Aurilla, dites donc.
Oui, bah non.
Ça fait de quelle ville vous nous appelez ? Rappelez-moi, Lyon ?
Lyon, oui, à côté de Lyon.
Allez, je vous écoute, Aurilla. Dites-nous tout.
Eh bien, écoutez, moi, personnellement, j'ai l'impression que le conflit qui est actuellement en Palestine, c'est plus pour prendre la terre, c'est plus pour les déloger, c'est plus pour voilà, c'est un massacre, c'est impolant. Il y a personne qui bouge, il y a personne qui. Oui, nous on va manifester, on fait des choses à côté, mais en soi, il y a personne qui s'intéresse aux morts, aux enfants qui sont décédés. Oh, on va nous mettre des fake news sur les pauvres Israéliens qui se sont attaqués le 7, mais ça fait plus de 70 ans quand même que la Palestine est attaquée. Ça fait 70 ans qu'ils sont en train de se battre.
Vous savez ce qu'il dit, le chef de l'ONU ?
Oui.
Un cessez-le-feu se fait plus urgent à chaque heure qui passe.
Ben, bien sûr.
Monsieur Antonio Guterres.
Ah oui, c'est bien.
Vous êtes inquiète ?
Ah ben, je suis plus qu'inquiète, attendez. On est dans un monde de fous. Heureusement que ça n'arrive pas dans d'autres pays, hein, parce qu'il faudrait vraiment se soulever. Hein, bon, parce que merci. La France, elle est vraiment...
Merci Aurilla pour votre intervention.
Pas de rien.
01 53 48 3000, vous continuez de nous appeler. Emmanuel Dupuis, Nabil Etakache.
Ah, je ne veux pas vous laisser la parole, mais la France, elle fait ce qu'elle peut. Hein.
Alors, qu'est-ce qu'elle veut dire ?
Premièrement, la France a voté, comme 120 pays, une résolution demandant expressément une résolution, en tout cas... un arrêt, une trêve humanitaire, pour être le plus précis possible, contrairement à d'autres pays européens. Hein. Il n'y a pas eu une cohésion européenne. L'Italie et l'Allemagne se sont abstenus. 4 pays s'y sont opposés. La Croatie, l'Autriche, la République slovaque et bien sûr la Hongrie. Donc il y a quand même une dissension européenne. La France appelle de ses voeux une conférence humanitaire. Alors moi je crois beaucoup plus au rôle que la France peut jouer de manière rapide, imminente.
Il parle de cauchemar à Gaza, hein, le secrétaire général de l'ONU. Hein.
Tout comme les 18 agences de l'ONU qui ont fait un texte comme quoi il y a plus qu'urgence. Alors ça me fait gentiment rigoler quand même que l'on parle d'urgence. Ça fait 78 ans qu'il y a urgence. Depuis la première résolution onusienne qui appelait la solution Clochette. À deux États. Je vous le rappelle quand même. C'est la résolution 181. Elle date de 1947. Il y a eu 226 résolutions depuis. Aucune n'a abouti.
Donc vous considérez que c'est 78 ans d'urgence.
Je considère que l'ONU a failli depuis le début. Je considère que la communauté internationale n'a pas voulu s'affairer comme il se devait et qu'il y a eu des moments où on s'est approché de la paix, en 91 à Madrid, en 93 à Oslo, en 2002 à Riyad, mais qu'on en est beaucoup plus éloigné et que de vous à moi, la solution à deux États, elle est morte déjà depuis une dizaine d'années.
Nabil Etakache.
C'est un constat qui est extrêmement noir et je dois dire que je le partage. Malheureusement. Moi, je suis tout à fait en ligne avec ce qui vient d'être dit, aussi avec ce qui a été dit par la députée Nadia Hay qui a fait cette tribune.
Partager le même mouvement Renaissance.
Voilà, au sein de notre mouvement pour rappeler que un cessez-le-feu immédiat doit être demandé et un cessez-le-feu, comme disait la ministre des Affaires étrangères, qui doit déboucher sur l'arrêt de cette guerre. c'est urgent. Là, la situation, vous disiez que la situation est urgente depuis 70 ans, c'est vrai, mais alors là, elle est catastrophique. Elle est catastrophique, les gens n'ont plus de nourriture, n'ont plus de matériel, n'ont plus de, simplement pour équiper les hôpitaux, plus rien du tout pour, c'est-à-dire que là, les gens ne meurent plus qu'à cause des bombes, ils meurent aussi de faim, ils meurent aussi parce qu'ils n'ont pas d'eau, parce qu'ils ne peuvent pas être soignés, voilà. Donc la situation, elle n'est pas plus qu'urgente, elle est tragique et elle doit trouver des solutions très rapidement. Maintenant, sur la solution à deux États, le constat est noir, mais il faut quand même aller vers une solution politique, parce qu'il n'y a que ça qui... Parce que moi, je ne crois pas à ce que... Enfin, que cette guerre amène quoi que ce soit, en fait, à la sécurité d'Israël, au final.
Jimmy Dalidou, on vous a pas entendu, alors.
Oui, alors, écoutez, plusieurs choses. La première, c'est qu'effectivement, la solution ne peut être que politique, elle ne peut pas être militaire. En fait, les guerres et les interventions militaires n'ont jamais apporté de solution.
Les diplomatiques.
Même si les coups de pied au cul, comme on dit, font avancer la roue d'histoire. C'est comme ça, c'est utopiste de croire le contraire. Malheureusement, vous savez, comme le disait Jean Jaurès, hein, le capitalisme porte la guerre comme la nuée porte l'orage. Mais plusieurs choses. Moi, ce qui m'inquiète d'abord, c'est l'impact en France de ce conflit. Parce que malheureusement, la Macronie, on a constaté que la Macronie avait généré une rupture en France. Il y a malheureusement une rupture en France de par la politique désastreuse de la Macronie. Et cette politique guerrière, cette politique colonisatrice, ces velléités politiques barbares colonisatrices que le gouvernement d'extrême droite israélien met en application contre le peuple, cet héroïque peuple de Palestiniens, malheureusement, d'abord est condamné. Internationalement, on rappellera quand même que c'est sur le plan international condamné. Alors c'est bizarre ça, quand il s'agit du gouvernement israélien et qui met en application une politique guerrière colonisatrice totalement hors des clous, une intervention interdite, et bien, personne, on le condamne moralement. Mais il n'y a aucune condamnation au niveau de la jurisprudence, etc. Donc ça, c'est la deuxième chose. Concernant la solution à deux États, je ne pense pas que ce soit utopiste. Je pense que c'est une nécessité. Mais pour ça, la solution à deux États, elle viendra d'une chose, c'est-à-dire ouvrir une voie politique, mais une voie politique dans laquelle il faut laisser la place à la voix du peuple palestinien. Mais vous savez, pour construire politiquement, il vous faut à boire, il vous faut à manger, il vous faut des conditions d'existence matérielle convenables, à minima, si vous voulez construire politiquement. Malheureusement, le gouvernement israélien d'extrême droite a décidé de détruire le peuple palestinien.
Quand vous entendez ça, quand vous
entendez et malheureusement... c'est une nécessité, cette solution en deux
vous
États.
Vous dites quoi, Emmanuel Dupuy ?
Mais, accessoirement, on est tous d'accord. On le dit autrement. Moi, je suis le premier à me désoler que le sixième gouvernement de Netanyahou soit le gouvernement le plus à droite depuis la création de l'État d'Israël en 1948. Je suis le premier à me désoler que de l'autre côté, en Palestine, parce que moi, j'entends bien que le peuple palestinien puisse s'exprimer. Il n'y a pas eu d'élection en Palestine depuis 2005.
2006.
Le mandat de Mahmoud Abbas
parce qu'ils ont aussi soumis un embargo qui empêche certaines velléités politiques, tu le sais bien.
Certes, encore une fois, ce que je veux dire, c'est que on a un problème de blocage de part et d'autre. Un gouvernement israélien qui ne veut pas négocier, ce gouvernement, enfin certains ministres qui ont entre guillemets positionné notamment Atamar Ben-Gvir, qui est celui qui est le porte-parole du courant le plus extrême, c'est celui qui, je vous le rappelle, a armé les colons qui s'en sont pris en Cisjordanie. On est loin de la lutte contre l'Hamas, là, à un certain nombre de familles palestiniennes. Et puis, de l'autre côté, la Palestine, qui a un vrai problème de gouvernance. Premièrement, Gaza n'est pas administré par le Fatah.
Non.
Donc, depuis 2007, c'est le Hamas qui
est au pouvoir,
met sous sa
compte. Qui est aux manettes.
Il n'y a pas eu de processus électoral non plus. On va appeler ça un coup d'État, d'une certaine façon. Donc, moi,
il y a quand même eu des élections en 2006.
Pas à Gaza, il n'y a jamais eu d'élection à Gaza. Le Hamas n'a jamais été élu.
42%.
Non, d'accord. Mais encore une fois, le Hamas n'est pas un...
Le Fatah, il avait eu 40%, je crois, un truc comme ça.
Oui, mais d'accord, mais ça n'a pas été reconnu. Donc, ce n'est pas le problème.
Ça a été reconnu par le peuple palestinien.
Ah non, pas le Fatah. Le Fatah n'a jamais reconnu la légitimité.
Mais le Fatah, mais le Fatah, il n'y avait pas uniquement que le Fatah et le Hamas dans la population palestinienne.
Il faut savoir. Si c'est un processus électoral, c'est l'élection qui fait.
Ils ont été élus. Et une partie des Palestiniens ont voté pour le Hamas.
Heureusement
ou malheureusement,
on ne va pas jouer sur les mots. Il y a deux légitimités palestiniennes. Je rappelle que le Hamas n'est pas l'allié du Fatah et vice-versa. d'ailleurs les meilleurs pour décrire le caractère frériste et le caractère islamiste du Hamas, c'est pas nous, c'est l'autorité palestinienne. Je vous ai écouté, permettez-moi juste d'aller jusqu'au bout de ma démarche. Je suis le premier à penser qu'il faut trouver une solution politique. Le problème de la solution politique, c'est que on s'en est éloigné pour plusieurs raisons. Premièrement, il y a eu une radicalisation de part et d'autre.
Ton approche est utopiste, Manuel.
Deuxièmement, il n'y a pas de volonté de la part des pays du voisinage d'aboutir à cette solution. Soyons honnêtes, ni l'Arabie Saoudite, ni l'Égypte, ni la Jordanie, ni les pays qui ont normalisé avec l'État d'Israël n'ont jusqu'à présent, avant le 7 octobre, montrer leur détermination.
Alors, le problème, qui se pose. Force est de constater que je pense qu'on on prend le sujet par le mauvais bout. Parce que si on écoute Emmanuel Dupuis, forcément, s'il y avait, admettons que le Fatah et l'OLP avaient pris le pouvoir en 2006, etc., etc., les choses auraient été différentes. Moi, je pense tout simplement que à partir du moment où le gouvernement israélien et notamment extrême droite est de toute façon est totalement absorbé, imbibé par des velléités colonisatrice, que ce soit Fatah, que ce soit Hamas, ou quelle que soit la formation politique, tu ne peux pas stopper des velléités colonisatrices, ce qu'on appelle en d'autres termes l'impérialo-sionisme, et qui avait de toute façon décidé, de s'accaparer la terre palestinienne, de s'accaparer la vie du peuple palestinien, qui devient de plus une force de travail malléable pour le gouvernement d'extrême droite d'Israël. Donc que ce soit le Fatah ou Hamas, ça aurait été pareil.
Nabil Takache, et ensuite on va accueillir Mohamed du 91.
Alors, moi je vais revenir sur l'urgence absolue de ce cessez-le-feu et de l'arrêt de la guerre. Juste avant de venir, je voyais les tracts qui ont été envoyés par l'armée israélienne aux Palestiniens de Gaza. Leur demandant de partir en fait encore une fois du nord, c'est-à-dire couper complètement Gaza et de les pousser dans le sud. Parce que là, c'est au début, c'était simplement une partie du nord de Gaza.
Là,
c'est vraiment Rafah. Là, c'est-à-dire qu'on leur demande d'aller à Rafah, ce qui est totalement complète. Enfin, l'armée israélienne justifie cette information pour éviter que les Palestiniens se fassent bombarder. Mais là, je crois qu'il faut quand même s'arrêter, qu'il faut absolument que nos autorités, et je crois que c'est dans ce sens que va la ministre des Affaires étrangères, c'est de demander tout de suite un cessez-le-feu. Et on ne peut pas se réjouir non plus qu'il n'y ait que 100 camions qui entrent dans Gaza. 100 camions, ce n'est absolument rien pour pouvoir... ça pourra peut-être aider, soulager et encore le sud de Gaza, mais toutes les parties nord qui sont bombardées. Non, et sur, pardon, je voudrais quand même deuxième point, c'est vraiment sur que le conflit qui s'invite aussi en France, pour différentes raisons, je vais pas revenir dessus, je voudrais aller encore une fois dans le sens de Nadia Hay qui disait que il est légitime de défendre toutes les causes, mais il faut qu'on le fasse encore une fois dans le respect du droit, dans le respect aussi la mesure des mots. C'est très très important pour ne pas se décrédibiliser et pour pouvoir défendre de façon juste.
Je vais juste accueillir Mohamed, s'il vous plaît. Mohamed du 91. Bonsoir Mohamed, quelle ville du 91? Parce que vous, on a à peine 1 minute 30 pour avant de lancer la pause. Mohamed, bonsoir.
Bonsoir à tous, je suis de Massy.
Massy, on vous écoute, Massy. Mon cher Mohamed.
Voilà. J'ai deux petites remarques. La première, c'est que j'ai 60 ans, pour dire que ça fait beaucoup, beaucoup d'années que je suis le sujet. Il n'y a absolument, à mon sens, et l'a dit votre collègue il y a quelques minutes, il n'y a aucun État au monde, ni les Palestiniens, ni quoi que ce soit, qui trouvera une solution. C'est le sentiment que j'ai. La seule solution possible, c'est que des Juifs israéliens, de gauche, qui aujourd'hui manifestent, c'est certain, que ce mouvement grandisse pour donner une liberté à la Palestine. Parce que toutes les voix, depuis 30 ans que je suis en France, je suis d'origine du Maghreb, 30 ans, à chaque fois que quelqu'un l'amène pour dire « je suis pour la justice, je suis pour Palestine », il s'est fait, mais éteindre, mais vraiment éteindre. Qu'il soit un homme politique, qu'il soit, mais impossible. Voilà. Ça, c'est le premier point. Toutes les voix sont étouffées. Qu'il soit français, italien...
Le second point, mon cher Mohamed.
Le second point... comment ça se fait qu'il y a des sociétés qui envoient des millions, j'aimerais que si vous avez l'explication, qui sont des Américaines, qui sont citées dans les réseaux sociaux pour donner des millions à Israël. Pourquoi? De quelle manière? Est-ce qu'ils ne payent pas d'impôts et donc c'est les Américains qui payent? Comment ça se passe que, voilà, il y a des centaines de millions d'euros envoyés à Israël voilà, si vous connaissez le système.
Merci Mohamed. Effectivement, merci de nous avoir rappelé ces deux éléments qui sont essentiels. Je donnerai la parole à Emmanuel Dupuis, sauf si vous, ça, ça rentre dans les.
Oui, bien sûr. Non, juste pour venir sur Rafah quand même, parce que Rafah, ils sont marrants, le gouvernement israélien, parce qu'il faut aller à Rafah, mais je rappellerai quand même que Rafah, ça fait à peu près 12 km. C'est un terminal qui est totalement contrôlé, un poste frontière totalement contrôlé par l'armée israélienne et dans lequel, via lequel le gouvernement israélien a un contrôle total. Et surtout depuis l'embargo de 2007. Ouais, non, mais Israël a un certain contrôle, oui, en collaboration avec le gouvernement égyptien. Il faut être
non, mais juste pour être précis, bien sûr que ce gouvernement-ci, en Israël, est un gouvernement qu'on ne peut pas soutenir. Mais il y a eu par le passé des gouvernements qui ont ouvert la porte, tendu la main. Je rappelle qu'Yitzhak Rabin a été assassiné précisément pour ça en 95.
Allez, voilà. Juste après la pause, on parle de la loi immigration, les principaux points, vous le savez, régulariser les métiers en tension. On va aussi parler de ce débat qui a été sulfureux au sein de l'hémicycle Sénat, mettre en place une politique de quotas, transformer l'aide médicale, etc., etc. Ça, c'est les principaux points, on en parle tout de suite après.
Les informés reviennent dans un instant. 19h-20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
h 41 42 précisément, avec Emmanuel Dupuis, Jimmy Dalidou et enfin Nabil Aitakash. Allez messieurs, nous allons parler de cette loi, le Sénat et la loi immigration. Gérald Darmanin a défendu, il a parlé aux sénateurs, le débat a été houleux, sulfureux, bref, une loi, vous savez quoi, paraît-il, d'une grande fermeté. Alors Emmanuel Dupuis, qu'est-ce qu'on peut dire? Ça vient de tomber, hein, les métiers en tension vont être régularisés. On le sait. Titre de séjour d'un an, renouvelable. Condition, être depuis 3 ans sur le territoire. Voilà les métiers en tension. Et puis, plein d'autres points, effectivement. Plus de fermeté, qu'est-ce qu'on doit comprendre?
Bon, en tout cas, c'est à l'objet d'une négociation. C'est ce que, je crois, le ministre de l'Intérieur voulait. En tout cas, c'est l'objet d'une tension interne au groupe qui vont le voter. Nous étions nombreux à écouter ici même les débats tels qu'ils sont en train de se produire, avec évidemment des divergences dans tous les groupes concernant ces articles 3 et l'article 4, donc les métiers sous tension et donc l'accès au travail, donc pour les demandeurs d'asile, qui étaient deux sujets sur lesquels la droite ne voulait pas tergiverser, ne voulait pas transiger. En tout cas, c'était l'exigence qui avait été faite à Gérard Darmanin. Il semblerait que Gérard Darmanin était prêt à modifier à la marge ce texte, mais que sa majorité à l'Assemblée ne l'était pas. Donc ça, c'est un premier point qui est un problème politique. Je crois d'ailleurs aussi qu'il y a une tension, enfin je suis certain qu'il y a une tension sur la suppression de l'aide médicale d'État, et donc sa transformation en l'aide médicale d'urgence. C'était une demande.
Est-ce qu'on peut considérer que ce projet de loi, c'est un projet de loi volcanique?
C'est un projet de loi volcanique aussi en interne. Parce que les
ministres n'étaient pas forcément d'accord. C'est pour ça que je dis ça, parce que vous, ça fait
référence. Justement, la transformation de l'AME en
donc explosif.
J'ai cru comprendre qu'Olivier Véran n'était pas tout à fait court et n'était pas sur la même position que Gérard Darmanin.
Donc est-ce qu'on peut parler de crise politique?
Non, c'est pas une crise politique, parce que premièrement, ce n'est qu'un examen en Sénat. Ça deviendra une crise politique quand il y aura un certain nombre de tensions à l'Assemblée nationale. Je crois aussi que c'est une manière de démontrer que le Sénat n'est pas forcément au diapason, enfin la majorité, pardon, la majorité sénatoriale n'est pas forcément au diapason, car il ne vous aurait pas échappé qu'un certain nombre de grands élus ou de la Chambre haute ne sont pas d'accord entre eux. Gérard Darmanin a semblé convaincre un certain nombre d'entre eux, Gérard Larcher notamment, le groupe centriste avec Hervé Marseille. Ce n'est pas le cas d'un certain nombre d'autres élus.
Écoutez, de par cette loi, le gouvernement démontre ce qu'il est réellement, c'est-à-dire un organisateur de ce que j'appelle le colonialisme social. C'est-à-dire le fait qu'en fait, le gouvernement est devenu un centre de tri de la force de travail. C'est-à-dire, moi, ce qui me gêne, c'est que on va faire venir une manœuvre, ou en tout cas une manœuvre qui sera là depuis, on va dire, 3 ans. Donc déjà, ça fait 3 ans qu'ils galèrent, les gars. Et on va leur dire, au bout de 3 ans, toi, force de travail, qui plus est souvent d'origine issue du continent africain, que ce soit de la zone de pays maghrébins ou subsahariens ou autres, et on va leur dire, bah maintenant, tu auras le droit d'avoir tes papiers et tu auras le droit d'être enfermé dans un métier, attention, entre guillemets, qui sont rien de plus que des métiers qui ont été, qui ont qui n'ont aucune reconnaissance de notre pays et du gouvernement. Et ils vont, malheureusement, ce qui me gêne, c'est que ces personnes-là vont être enfermées dans ces métiers-là. Ils vont se retrouver. Moi, vous savez, j'ai travaillé 10 ans dans la restauration. C'est le début de mon parcours. Je suis resté 10 ans dans la restauration. Et alors, vous savez ce que c'est faire la plonge 6 jours par semaine, travailler du matin au soir, éplucher des pommes de terre, faire du ménage, du nettoyage. Parce que c'est ça qui fait tourner la France. On l'a vu pendant le confinement. Appelons un chat un chat. Ce qu'on appelle la force de travail humaine qui sont souvent de noirs ou arabes et qu'on va enfermer dans des métiers que le gouvernement ne veut pas reconnaître et ils vont passer leur temps à nettoyer, à astiquer, à faire le nettoyage, à faire de la plonge et dans le même temps vous avez des partis politiques qui vont arriver en disant ah mais ces personnes là ce sont des envahisseurs, ils sont dangereux pour la France, surtout quand ils nettoient les gamelles au fin fond d'un restaurant à servir les bourgeois qui viennent bouffer. Oui, oui, ils sont très dangereux.
Eh ben, je vais donner la parole.
Donc cette loi est dangereuse, surtout comme il a dit, ils ont fait sauter l'AME, ça c'est inadmissible.
Bah, ils souhaitent le faire sauter.
Parce que l'AME,
ça n'a pas été voté.
Non, mais ça c'est ce qu'ils veulent faire. C'est-à-dire que quelqu'un qui est malade, qui vient des pays qui est malade, on va pas le soigner.
Nabil Takache.
Alors, l'immigration, c'est quand même un sujet sérieux et qui suscite beaucoup d'inquiétudes dans la société française. Donc, le gouvernement tente d'y répondre avec un projet de loi qui se veut en effet ferme, d'après les mots du ministre de l'Intérieur, parce qu'il faut en effet régler la situation actuelle. On parle là tout de suite des travailleurs régularisés. Alors, comme vient de le démontrer, enfin comme le propos de Jimmy le montre en fait, c'est beaucoup de d'inexactitudes, de choses qui sont fausses. Quand on dit qu'on va chercher les gens,
c'est la politique de la majorité.
À aucun moment je ne t'ai coupé.
S'il vous plaît.
À aucun moment.
Donc quand il faut que je réponde alors.
Oui, mais tu répondras quand moi je t'ai laissé déblatérer et dire des choses complètement inexactes et fausses. Voilà. Quand on dit qu'on va chercher les gens, non, on parle d'une immigration clandestine. Donc ce n'est pas les autorités françaises qui vont chercher les gens. Donc il y a une immigration en France, il y a une immigration légale et il y a une immigration illégale. Donc d'une part, ce n'est pas, encore une fois, la France qui va chercher pour aller exploiter, comme dit...
La notion de légal et illégal est totalement nauséabonde.
Deuxième inexactitude, c'est de dire... C'est là où en fait on voit que... Enfin vraiment... L'immigration, c'est le sujet de toutes les postures. Pour la droite, de vouloir courir après le Rassemblement National et d'être plus dur encore que le Rassemblement National. Et derrière, à l'extrême gauche, des gens qui instrumentalisent cette question pour faire croire qu'ils sont des... Enfin, comment dire qu'on peut fermer les yeux sur la difficulté, en fait, qu'a la France d'accueillir de plus en plus de personnes.
Ouais,
non, j'ai pas
non,
fini.
Mais...
Et le deuxième point... Et le deuxième point, dire qu'en fait, on va régulariser des gens et ils vont rester toute la vie dans ces métiers-là.
Vous allez
c'est
les parquer,
faux,
vous allez fait, parquer c'est dans des secteurs faux. Que
c'est-à-dire
le gouvernement...
C'est-à-dire qu'il y a des métiers en tension. Il y a des métiers en tension sur lesquels des gens pourront être régularisés.
Ouais, non, mais
je pense que
même la gauche est d'accord
avec ça.
S'il vous plaît.
Moi, ce qui me gêne, c'est cette notion de immigration légale, illégale. Moi, ce que je vois, c'est une force de travail humaine qui, à un moment, est parquée dans des secteurs de production, dans des secteurs de production où le gouvernement a totalement laissé à l'abandon, de par les conditions de travail exécrables, de par les salaires excessivement bas, et qui fait que des secteurs dans lesquels vous ne pouvez pas vivre face à l'inflation. Et ces gens-là vont subir ces conditions atroces.
Emmanuel Dupuis.
Loin de moi de trancher le débat. Comme c'est une question très importante, il y a une disposition sur laquelle...
On comprend le débat houleux qui s'est déroulé au Sénat.
C'est important.
Voilà.
Il était moins houleux au Sénat, accessoirement. C'est pas la tradition.
Sulfureux.
Non, il y a un élément sur lequel je pense la majorité présidentielle, la majorité sénatoriale peuvent s'entendre, c'est le recours au référendum.
Oui.
Je crois qu'il va en être question le 17 novembre.
Donc Macron doit trancher.
Non, il ne va pas trancher, il va le proposer. En tout cas, j'ai bien écouté ce qu'a dit le président.
Absolument.
Il en sera question à l'occasion des réunions de Sainte-Sainte.
Mais qui ne concerne pas ce projet de loi, en l'occurrence.
Non, mais nous demandons à ce que les questions importantes comme la fin de vie ou l'immigration, quand j'ai dit nous, à droite et le centre, demandons que ces questions soient
pas
tranchées.
Il passe tout pas 49-3.
Il est 19h50, messieurs, c'est le quoi de neuf, s'il vous plaît. Je veux qu'on respecte vraiment l'horaire. C'est parti.
Les informés. Le quoi de neuf,
c'est avec, vous le savez, Maître Franck Serfati. Bonjour, Maître.
Bonsoir Adil.
Bonsoir, je vous lance justement avec votre billet d'humeur. Ce soir, vous avez décidé de nous parler, vous savez, de ces actes antisémites. On vous écoute.
Inévitablement, mon cher Adil, hein, tout comme la question que vous venez d'aborder, la loi sur l'immigration, le travail, travail tendu, j'entendais en quelques minutes quelques propos assez vifs. Il est une deuxième question qui fait l'objet d'une actualité des plus brûlantes, puisque on recensait avant 2002 une quarantaine d'actes antisémites. Après la seconde intifada, on a eu en France, sur les années 2003-2004, un millier d'actes antisémites. Et malheureusement, depuis le 7 octobre, j'avais eu l'occasion, puisque vous m'aviez offert un billet sur les événements du 7, expliquer qu'il ne fallait surtout pas importer le conflit israélo-palestinien en France. Et malheureusement, le ministère de l'Intérieur a enregistré près de 1300 actes antisémites depuis le 7 octobre. Alors une fois, c'est une synagogue qui est taguée. Ensuite, partout en France, et notamment en Ile-de-France, on a vu des étoiles jaunes. Et puis plus grave, des infractions aux personnes, des jeunes gens qui sont tabassés, agressés par ce qu'ils portent une kippa. Une jeune fille a reçu un coup de tête dans le nez parce que, à l'intérieur d'un véhicule Uber, le chauffeur a appris qu'elle s'appelle Sarah et qu'elle serait de religion juive. Moi, je pense qu'inévitablement, on ne peut pas tolérer ces violences. On ne peut pas accepter, quelle que soit l'origine d'un conflit, qu'il soit politique, qu'il soit humain, qu'il soit personnel, chacun, et je le disais au lendemain des attentats du 7 octobre, on a le droit, on a même le devoir d'interagir, de s'interroger, d'interpeller. On peut aller en Israël, on peut rencontrer des associations palestiniennes, des associations, je le disais, de femmes, surtout les femmes là-bas essaient de travailler sur la paix, mais en aucun cas, dans une démocratie, dans une république, on peut régler un quelconque problème par des violences délictuelles ou criminelles.
Merci, mon cher maître Franck Serfati. À lundi prochain, je vous dis si vous avez un autre billet d'humeur, évidemment, avec autant de plaisir.
Avec grand plaisir.
Merci, mon cher maître. À très bientôt, évidemment, pour votre regard et à bientôt. Regard et analyse concernant donc le Quad 9. Messieurs, Emmanuel Dupuis, vous vouliez dire peut-être un petit mot rapide, allez, d'une phrase, même pas, parce que je rends l'antenne, là. C'est deux secondes. Hein.
Sur la Cour de justice de la République,
oui.
C'est ça, vous voulez.
Qu'est-ce qu'on peut retenir? Deux secondes.
Bah, écoutez, donc c'est que le début du procès, donc moi je suis assez.
Et je rends l'antenne.
Assez interrogatif sur l'issue de ce procès d'ici le 17 novembre. J'ai bien compris.
Je rends l'antenne.
Que la Première ministre a
accordé. J'avais été trop long. C'est vrai, je rends l'antenne.
Alors donnons quitus au ministre de la Justice et à la Première ministre qui lui fait confiance. Je ne suis pas certain que si le ministre est reconnu coupable.
Merci à Emmanuel Dupuis. Je suis désolé.
On ne peut pas rester sur le ministre.
Allez-y vite, mais je vous ai dit ça.
Ça créera une vraie crise politique pour pouvoir le remplacer.
Ça, c'est vrai. Et à suivre.
Comment?
À suivre. Merci Jimmy Dalidou.
Merci à tous.
Merci Nabil Etakash.
Merci.
Merci messieurs, évidemment, pour votre regard et votre point de vue. Merci à Solal à la réalisation. Bilal Lenman, Time Sport. Ensuite Vanessa à 21h. À demain avec autant de plaisir. Mais surtout, on ne lâche rien, les amis. Ciao.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.